Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
اكتوبر في باب نوال العساكر كانت تقوية ضربونا بالمترايات والشباب ما زال حية اكتوبر في باب نوال العساكر كانت تقوية ضربونا بالمترايات والشباب ما زال حية
Auditeurs et auditrices de la web radio du Rage, Voix de Jeune, bonjour, bienvenue une autre fois dans le cadre de cette semaine d'octobre que nous avons organisée à l'occasion du 30e anniversaire du mouvement d'octobre 88. Donc on a l'habitude de recevoir durant cette semaine des acteurs associatifs, politiques, syndicaux, journalistes et militants. Cette fois-ci, dans ce numéro, nous avons l'honneur de recevoir sur le plateau de la web radio Monsieur Hakim Haddad. Hakim Haddad, c'est un militant depuis son jeune âge. Il est l'un des fondateurs de l'association Rage et aussi il était secrétaire général de l'association. Bonjour Hakim et merci une autre fois de venir de partager avec nous ces moments d'échange et de débat.
Azoul, salam alaikum, yatikum staha al-istidafa, merci de cette invitation. L'honneur est partagé, être invité par Radio Rage d'une émission menée par son président de cette association et en plus sur octobre 88 et les suites, c'est un honneur partagé. Merci, yatikum staha.
Mais c'est effectivement octobre 88 pour nous, déjà même pour l'association, on le considère comme un deuxième acte de naissance de l'Algérie indépendante après l'indépendance. Donc le 5 octobre a donné un nouveau souffle pour l'Algérie indépendante pour vivre en démocratie et en tant qu'état de droit. Hakim, comme à chaque fois, donc on pose la même question à tous nos invités. En tant que personne, comment vous avez vécu les événements d'octobre 88? Quel est le souvenir que vous avez?
D'abord, dans votre introduction, vous venez de dire la deuxième naissance ou une deuxième naissance de la République de l'Algérie. Et m'est venu à l'esprit, à chaque fois, c'est des 5. Voilà, le 5 juillet à Al-Aql officiellement et le 5 octobre. Voilà, donc c'est un...
Donc une bonne coïncidence.
Une bonne, une jolie coïncidence, absolument. Le 5 juillet 62 et le 5 octobre 88, donc faisons attention à chaque fois qu'il y aura des 5 qui passeront ou des 5 octobre qui passeront à l'avenir. En ce qui me concerne, j'étais à cette époque-là en France où j'étudiais et je travaillais. J'étais déjà, bien évidemment, comme vous l'avez dit, depuis mon plus jeune âge, militant. J'étais dans des associations, dans une association et enfin des associations en France où je militais. Et nous avons appris, bien évidemment, quand nous nous éloignons des rivages de notre pays, on est toujours en contact et en recherche d'informations, surtout à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux et les informations et les paraboles comme il peut y avoir aujourd'hui. Donc nous avons été au fait très rapidement de ce qui commençait à se passer en Algérie, et d'abord en tant qu'Algérien, aussi en tant que militant des causes justes. Nous avons organisé assez rapidement, avec l'aide d'associations et de différentes structures là-bas, la solidarité internationale, en l'occurrence l'organisation de meetings pour dénoncer d'abord la répression et les tortures qui avaient lieu pendant octobre 88, et également pour que l'information passe le plus possible et amener le plus de solidarité possible vis-à-vis de ceux qui se battaient sur le terrain, en l'occurrence en Algérie. Donc voilà, c'était une époque où j'ai... Voilà.
Merci pour ce témoignage. Donc justement, je reviens à une autre question qui a été aussi débattue juste après octobre, jusqu'à ce jour. On dit que à l'époque, le peuple algérien n'était pas prêt, donc il y a la théorie du complot, il y a une lutte. C'est vrai, à l'époque, il y avait une lutte au sein de à l'intérieur du pouvoir, une lutte clanique. Après, c'est eux qui ont provoqué ce soulèvement populaire. Pour vous, qu'est-ce que vous en dites? Quelle est votre analyse à cette théorie, à cette vision?
Il n'y a pas qu'en octobre 88 que cette rumeur a été lancée et que ces contre-vérités sont véhiculées. À chaque fois qu'il y a des mouvements, et pas qu'en Algérie, mais particulièrement en Algérie, certains officines lancent ce genre de fausses informations et malheureusement est repris. Et sont reprises ces fausses informations par d'autres pans de la société, par d'autres acteurs dans la société. Et des fois, il est même étonnant que ces rumeurs soient reprises par des entités ou des personnes qui s'estiment ou qui se présentent même comme opposants à ce même régime. Je dirais que c'est quand même avoir peu d'estime et une mauvaise idée et une injuste idée des capacités.
C'est un mépris en quelque sorte.
Et un mépris, merci, absolument, et un mépris vis-à-vis d'un peuple. Vis-à-vis de l'intelligence d'un peuple, vis-à-vis des capacités d'un peuple à exprimer ses revendications, à faire ses propositions, à s'opposer à certaines choses. C'est aussi un mépris à des représentants de ce peuple, des structures politiques, des structures associatives, des structures syndicales, même si nous sommes en train, des militants politiques, parce que nous sommes en train de parler en l'occurrence de la veille d'octobre 88 où toutes ces organisations existantes aujourd'hui n'étaient pas visibles au moins à cette époque-là. Donc oui, c'est tous ceux qui véhiculent ou qui reprennent d'une manière ou d'une autre ce genre d'informations et sont dans une optique de mépris vis-à-vis des acteurs de la société et de la société en elle-même. Et je rajouterai également que c'est aussi en tout cas pour ceux qui reprennent ce genre de rumeurs, c'est aussi une manière pour eux d'expliquer le fait qu'ils ne bougent pas. Voilà, ils disent que bon, c'est une manipulation, c'est entre des clans du pouvoir, c'est entre tel clan et tel clan qui se, etc. Donc ça, ils se justifient à eux-mêmes le fait de ne pas bouger, le fait de ne pas s'investir dans les luttes telles qu'octobre 88, telles que le printemps 2001 qui a eu lieu et qui a vu des dizaines de morts et d'autres moments. Y compris aujourd'hui encore, nous entendons à chaque fois qu'il y a des mouvements sociaux, et il y en a, nous y reviendrons, que ce soit les médecins, que ce soit les militaires en retraite, que ce soit les jeunes dans le sud algérien et ailleurs, tout cela sont, il y a des gens qui disent que ce ne sont que des manipulations. Par exemple, ce qui s'est passé à Ardaïa les dernières années, etc., les affrontements, les différents mouvements de revendications des gens de la région, tout cela est présenté à chaque fois partent souvent les mêmes d'ailleurs, et repris par les mêmes comme étant de la simple manipulation. Voilà, donc c'est un mépris, c'est une justification de la part de ces gens-là de ne pas s'investir dans ces différents mouvements.
Aussi pour réduire aussi de la valeur de ces mouvements, c'est pour les étouffer, les casser, les affaiblir.
Absolument.
Fois, il y a cette carte de complot, cette carte de la main étrangère, à chaque fois qu'il y a une contestation nationale.
Absolument, que ce soit contestation nationale ou même régionale, locale, etc. Et vous avez à juste titre dit, y compris quand il s'agit, quand il lance des rumeurs comme quoi c'est la main de l'étranger qui manipule un tel, etc. Un tel ou un tel. Voilà. Donc, en même temps, parce que nous ne pouvons pas non plus occulter, vous l'avez dit dans votre, en posant votre question, c'est que oui, effectivement, il y a des tentatives de manipulation. Bien évidemment. Et il y a eu, oui, des tentatives de manipulation et des manipulations en octobre 88 de ceux que vous avez cités. Il y avait des affrontements claniques au sein de, du parti unique à l'époque.
Chaque groupe essaye de récupérer
voilà. Il y avait, bien évidemment. Mais comme il y a aujourd'hui des différentes luttes claniques également qui continuent, voilà, en 2018. Mais cela n'explique pas et ne justifie pas le fait que des mouvements aient lieu dans la rue et que des mouvements de protestation, de revendication citoyenne existent. Il y a des manipulations, il y a des tentatives de récupération, que ce soit de cercles dans le pouvoir ou même autour, et à la limite, je dirais que c'est même de bonne guerre. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, et ce qui doit nous intéresser, que ce soit pour octobre 88 ou pour octobre 2018 et pour l'avenir, c'est la société, comment elle s'exprime, ce qu'elle, comment elle vit, le pouls de la société, et être avec cette société,
Toujours dans le même sillage, donc vous avez parlé de récupération et tout, moi je vais poser une autre question sur l'encadrement du mouvement. Juste après l'explosion, donc l'encadrement, on a trouvé que c'était un mouvement spontané et il n'y a pas un encadrement tout de suite. Donc les forces à l'époque, les militants, les forces démocratiques progressistes, elles étaient pas présentes. Donc juste après, le mouvement a été encadré par les islamistes. Et le pouvoir, donc comment on peut expliquer ça? Est-ce que c'est, ça veut dire il y a une orientation dans ce sens? Ou à l'époque, le mouvement progressiste démocratique, il a été, bon, il était clandestin, mais est-ce qu'il a été affaibli ou empêché d'investir pour encadrer et faire aboutir ce mouvement?
D'abord, sur la question de la spontanéité des mouvements, ou de la spontanéité de mouvements, de protestations de cette sorte, j'ai du mal à croire que des mouvements tels que octobre 88 ou d'autres mouvements de cette ampleur-là soient spontanés à 100%. Voilà. Il y a, pour faire bref, il y a des raisons objectives au fait que que le peuple décide d'une manière ou d'une autre, que ce soit en sortant dans les rues ou autrement, décide d'exprimer à un moment donné des revendications. Deuxièmement, donc ça ne tombe pas du ciel, c'est pas saut de fête. C'est pas d'un seul coup comme ça, les gens à Bablouad ont commencé à sortir dans les rues, en tout cas pour les premières heures d'octobre. Deuxièmement, il y avait aussi peu soit-il, parce que la répression était féroce, je parle du temps du parti unique, des pans dans la société, des pans politiques, des militants politiques, de structures politiques qui ont vu, qui ont été légalisées par la suite, fort heureusement, mais qui agissaient au sein de la société. C'est des pans de la société, c'est des pans que ce soit, comme vous l'avez dit, des gens, des militants de gauche, ou même, effectivement, bien évidemment, les islamistes qu'on a vus au grand jour à partir du 9-10 octobre. Voilà. Donc ça, c'est une première chose à dire, que la spontanéité, que les choses ne tombent pas du ciel, voilà, et qu'on peut relativement prévoir et s'attendre. On ne sait pas à quel moment les choses peuvent être déclenchées, mais on peut savoir, comme c'est le cas malheureusement en ce moment, qu'une cocotte minute, il peut y avoir un moment déclencheur et qu'une cocotte minute peut exploser quand elle ne peut pas, quand elle est fermée de tous les côtés. Pour en arriver à votre question, il faut savoir, c'est les historiens qui peuvent le dire. Et qui essayent de le dire et de chercher là-dedans, ou les étudiants en histoire, dans leur mémoire, etc. Mais l'encadrement, comme vous l'avez appelé, ce qui n'est pas un terme faux, les militants progressistes, les militants de gauche, essentiellement, principalement, mais pas seulement, les militants du PACS à l'époque, ont commencé comme par hasard, je mets des guillemets à par hasard, à être interpellés et arrêtés dans les heures et les quelques jours qui ont précédé octobre juste avant octobre 88. Donc, on peut aussi se poser la question pourquoi, sur des raisons qui n'avaient pas lieu d'être, bien évidemment, qui n'étaient en aucun cas justifiées. Mais les militants, les personnes connues de la mouvance islamiste, eux, par contre, ont continué, ont été laissés dans la nature. Tant mieux. Tant mieux, je ne dis pas, je n'appelle pas du tout à l'arrestation de tout le monde ou des islamistes. Quand on ne fait rien, on n'a pas...
C'est-à-dire le pouvoir public, dans ce cas-là, on peut dire qu'ils ont favorisé un courant...
Donc, effectivement, quand s'est déclenché Harakat Octobre, le mouvement en octobre, les jeunes et les manifestations qui ont commencé à suivre, il n'y avait sur le terrain que les islamistes à ce moment-là, ou en tout cas en grande majorité les islamistes, pour pouvoir encadrer, pour pouvoir donner une orientation, relativement une orientation à ce mouvement. Voilà. Donc effectivement, de mon point de vue et de le point de vue de pas mal de personnes, le pouvoir avait fait son choix. Le pouvoir avait d'ores et déjà fait son choix, quel que soit ce qui a pu arriver, ce qui a pu être dit sur la volonté du pouvoir de se battre contre l'islamisme dans les années qui ont suivi. Donc le pouvoir avait fait son choix de faire encadrer et de laisser être encadré ce mouvement par les islamistes ayant peur d'abord de l'inorganisation. Éventuellement l'inorganisation éventuelle de ce mouvement, et surtout effectivement la possibilité que le mouvement de gauche, que les organisations de gauche progressistes de manière générale puissent interférer dans ce mouvement. Et malgré tout, et même comme ça, et ben ça quand même, il y a eu des endroits en Algérie où les progressistes, les militants progressistes, en l'occurrence à Béjaïa, en l'occurrence à Tizi Ouzou par exemple, quelques-uns sur le centre à Alger en exemple, ont pu faire ce qu'ils pouvaient avec le nombre qu'ils représentaient, ça veut dire assez peu. Voilà.
Et voilà, donc après octobre, donc le prix malheureusement était très cher, c'est des dizaines, on parle de 500 personnes assassinées. Des dizaines de personnes, des centaines arrêtées, des milliers blessés. Juste après, donc, le pouvoir en place a décidé de s'ouvrir, de reconnaître le pluralisme politique, le pluralisme associatif, syndical, et garantir des libertés d'une manière générale. Donc c'était des acquis démocratiques qui sont venus. Et ces acquis démocratiques, 30 ans après, c'est juste après on a vécu une période d'ouverture, juste après on commence à enregistrer la régression, ça veut dire un recul. Donc faites-nous un peu la situation aujourd'hui de ces acquis 30 ans après octobre, des acquis démocratiques d'octobre 88.
Je rebondirai un petit peu sur le début de votre question. D'abord, comme vous l'avez dit, il y a eu des dizaines jusqu'à aujourd'hui. On attend de savoir les chiffres exacts. On attend, ou en tout cas on revendique de savoir les chiffres exacts des personnes tuées. Effectivement, les autorités avaient dit, je crois, 170 ou 172 morts. Mais les chiffres des médecins légistes donnés par les hôpitaux dépasse et de loin les 500-600 morts. Le nombre impressionnant, il faudra également revenir sur ces choses-là, de cette page très sombre de notre histoire d'après indépendance, de la torture qui a été pratiquée à très grande échelle. Je me suis aperçu ces derniers jours en discutant, y compris avec des journalistes, qu'ils ne savaient même pas, certains d'entre eux, qu'il y avait eu la pratique de la torture, et encore moins savaient-ils que c'était à grande échelle. Donc il faudra aussi revenir sur ça. Et on demande encore et toujours qu'il y ait de la vérité et qu'il y ait de la justice qui soit faite sur ces questions. Et bien évidemment, une reconnaissance aussi de ceux, des victimes et des différents mutilés. Les mutilés dans ces affrontements. Donc il faudra, et vous en êtes un des acteurs avec l'association Rage, à vouloir, en revendiquant octobre 88, etc., à vouloir faire la lumière de tout ça, sur tout ça. Ça, c'est une première chose. Ensuite, vous avez dit que le pouvoir a décidé. Le pouvoir a été amené à... Le pouvoir a été, d'une certaine manière, presque obligé de reconnaître, de s'ouvrir, comme vous l'avez dit. On a eu dans les années 90 les anciens de cette association où on organisait des universités d'été, des conférences, etc. Une fois, nous avons eu un ancien Premier ministre qui publiquement avait reconnu que la volonté première au sein du FLN et des instances du FLN et du régime à l'époque, il n'y avait pas de volonté et qu'ils avaient été dépassés par la population, par les manifestants, par les revendications, par, comme vous dites, les événements. Et donc, s'ils voulaient que ça se calme, il fallait qu'ils répondent aux revendications de la population et aux revendications des structures, même clandestines à l'époque, de ces des partis politiques et de la société. Et donc, il a été obligé, il a été amené, mis devant un fait accompli pour s'ouvrir et pour reconnaître. Jamais, je pense, qu'il n'aurait ouvert s'il n'avait pas été poussé à cela, même si, il faut aussi le dire, quitte à ce que ça ne plaise pas à certains qui s'estiment les plus grands opposants du monde, même si au sein de ce régime, à l'époque, pour leurs intérêts propres et pour leurs raisons à eux, voulaient et proposer qu'il y ait une certaine ouverture économique, politique, etc. Voilà. Donc, qu'il fallait changer de cap, et c'est de ce dont vous avez parlé tout à l'heure et fait allusion tout à l'heure, le clan des conservateurs, le courant, plus exactement, des conservateurs, qui s'affrontait au courant des réformateurs. Voilà. Donc, c'est parce que on ne peut pas juste parler d'octobre comme ça et être superficiel, il faut véritablement, le plus possible en tout cas, et vous y participez entre autres avec votre semaine sur octobre, à approfondir la connaissance sur octobre 88 et sur les
justement suites. Sur cette question, il y a des gens qui disent que la population, quand elle est sortie, elle ne demande pas de démocratie, elle ne demande pas les libertés, elle dit, voilà, elle dénonce la situation sociale. Voilà, j'ai besoin de travail, la cherté de la vie, la précarité. Donc, des premières revendications ont été des revendications purement sociales. Après, le pouvoir, tellement il n'a pas la possibilité de répondre à ces revendications d'ordre purement social, elle a fait, ça veut dire, elle est passée à l'ouverture démocratique.
D'abord, ça me rappelle en 99. À l'arrivée de M. Bouteflika à la présidence de la République, qui de l'extérieur, en plus de l'Algérie, je crois bien que c'était à Davos, quand il a été à Davos et qu'il était interviewé par, encore une fois, des journalistes étrangers. Il faudrait savoir le nombre d'interviews qu'il a donné à des Algériens et en Algérie. Avait dit les gens, la population est sortie pour le pain. Voilà. Et pour le pain et pour Zit, hein, c'est non seulement c'est insultant, surtout quand on est président et qu'on se prétend être président d'un peuple, voilà, d'insulter ce même peuple, mais bon, il n'en est pas à sa première. Je me rappelle le Rage, le lendemain ou le surlendemain, avait fait une sortie sur le terrain et également avait donné son avis sur à travers un communiqué, une déclaration où on avait dit le peuple algérien n'est pas un tube digestif. Voilà, première des choses. Parce que ces choses-là remontent à loin. Et ce n'est pas qu'en Algérie que les pouvoirs en général disent que la population juste pour le pain. Je me rappelle des meutes dites des meutes de la faim au Maroc, en Tunisie, etc. Chez nos voisins. Effectivement, la population n'est pas les citoyens et les citoyennes qui sortent. Ils ne vont pas tout de suite porter des revendications politiques. C'est le rôle des partis politiques, c'est le rôle des organisations, c'est le rôle des associations comme la vôtre et telle que vous faites depuis des années ou qu'ont fait d'autres avant vous dans cette organisation, de donner une voix politique, une orientation politique à ces revendications sociales de la population. Donc la population exprime des revendications sociales. Quand ils disent le pain ou quand ils disent zit ou là, quand ils disent l'huile ou là, des choses comme ça, c'est la justice qu'ils revendiquent. C'est la justice sociale qu'ils revendiquent. C'est l'égalité. C'est un juste partage des richesses de ce pays, un partage équitable des richesses de ce pays. Donc en soi, ce sont des revendications politiques. Ensuite, dire la démocratie, la liberté, etc. Le plus souvent, c'est le rôle des partis politiques, des partis politiques proches ou des partis politiques et des organisations, etc. De différentes organisations de transformer et de donner politique à ces revendications.
Même ces revendications d'ordre social, pour qu'ils puissent être réalisées sur le terrain, il doit être accompagné par des mesures démocratiques. On doit avoir des institutions démocratiques élues, un système démocratique qui représente la volonté du peuple.
Voilà.
Donc c'est, ça se converge.
Oui, de toute façon.
Ça veut dire que même il ne sort pas, il dit voilà, je veux la liberté, je veux créer des associations, mais il le transmet à travers d'autres messages qui mènent directement vers ça.
Absolument, absolument.
Et qu'on ne peut pas désossier ces revendications sociales avec des revendications politiques. L'une complète l'autre.
L'une va obligatoirement avec l'autre. L'une, je dirais même, est EST, l'autre. Voilà. Juste sur la question, de la voie choisie, ou en tout cas tentée, apparemment malheureusement réussie, quand vous avez dit ils n'avaient pas les moyens. De répondre socialement aux revendications sociales. C'est un courant, je ne dirais pas un clan, mais souvent on dit un clan en Algérie, mais un courant du pouvoir à l'époque voulait modifier totalement, et il y est plutôt arrivé, l'orientation politique, économique et sociale qu'avait choisi l'Algérie depuis 1962. Ça veut dire je mettrai des guillemets, mais une orientation socialisante, une orientation de justice sociale, quand même, malgré tout, qui n'était pas accompagnée, malheureusement, par le respect des libertés, etc., d'où les problèmes qui s'en sont suivis, mais qui était quand même une orientation, une politique économique relativement orientée vers la justice sociale et le partage entre les Algériens, un juste relatif au juste partage entre les Algériens, et tout ça est issu de la déclaration du 1er novembre et de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Et donc le choix a été fait après d'aller vers une politique libérale, totalement libérale, sur le plan économique, malheureusement, ce qui a fait que ça a encore plus, dans un premier temps en tout cas, et surtout quand les prix des barils de pétrole sont à la baisse, posé de gros problèmes, tant aux caisses de l'État, mais surtout aux citoyens dans sa vie au quotidien.
Oui. Voilà, donc après, comme je viens de dire tout à l'heure, la Constitution de 89 reconnaît le pluralisme politique. Qu'en est-il aujourd'hui de ces, ça veut dire de ces libertés arrachées, de ces acquis démocratiques arrachés durant le mouvement d'octobre 88, 30 ans après?
Première chose, c'est que, en tout cas, je pense que quand on parle d'octobre 88 et qu'on revient sur cette date mémorable de l'Algérie, vous l'avez dit en introduction, il faut avoir toujours en tête les mouvements qui ont précédé octobre 88. Tous les mouvements de revendication de justice sociale et de liberté démocratique et de dignité, un terme fondamental, qui ont eu lieu avant octobre 88. Bien évidemment, on ne peut pas oublier, et il faut citer le printemps berbère, comme on l'appelle donc en 1980, avril et les mois qui ont suivi de 1980, les différents mouvements sociaux qui ont eu lieu en 86, par exemple dans le Constantinois, d'autres moins connus mais qui précédaient de quelques mois ou quelques années dans l'ouest algérien, en l'occurrence dans l'Oranie, etc., qui a fini par une déflagration telle que nous avons connue en 88. Et j'y mêle même personnellement ce qui s'est passé lors du printemps 2001 dans le centre de l'Algérie, en particulier bien évidemment en Kabylie, dans les wilayas en Kabylie. Donc pour tout le monde, il faut reconnaître à tout le monde ce qui a été fait, même si on se rappelle plus de certaines dates, plus mises en avant que d'autres. Adil Hadj Alloula, en ce qui concerne les acquis où on en est, d'abord je voudrais être positif. Eh ben, elles sont encore à notre portée. Elles sont encore à notre portée. Et nous devons, comme vous essayez de le faire, vous et d'autres, les utiliser le plus possible. Elles sont encore à notre portée, elles sont encore là. Je ne vais pas fuir la question, mais on ne peut pas être que dans le négativisme, que dans les choses négatives, Hajjat Selbiya, Qam'ouna, Verbouna, Makhlaounash, etc., qui est une vérité, et j'y reviendrai, mais c'est aussi ces libertés, ces espaces arrachés à travers différents mouvements dans le passé, et différentes luttes jusqu'à hier, voilà, parce que c'est une continuité, c'est une lutte permanente, sont encore là, et on doit non seulement les défendre, mais les utiliser, voilà. Alors après, effectivement, je dirais au moins ça, et même si pour les gens ça paraît peu, vous le savez très bien, vous, avec ce que vous allez présenter prochainement, et le très bon travail que vous avez fait avec d'autres partenaires, mais il y a les textes. Avant octobre 88, il n'y avait pas de texte qui reconnaissait à Arage la possibilité d'exister. Il n'y avait pas de texte qui reconnaissait à des journaux privés de pouvoir exister. Il n'y avait pas de texte qui reconnaissait à des partis politiques d'exister. Aujourd'hui, ils sont là. Il faut qu'on s'en saisisse. Aujourd'hui, c'est des instruments pour l'amélioration, pour les revendications, pour l'organisation des gens, et il faut qu'on s'en saisisse. Le tout n'est pas juste de passer son temps à se plaindre. Oui, Darouna, je parle pas bien sûr de vous, puisque vous êtes loin de là, pas contraint de faire ça, mais de beaucoup d'autres entités qui ne font que ça. Oui, il y a de gros reculs, bien évidemment. Oui, il y a, y compris à travers les lois. En l'occurrence, vous le savez très bien, la loi 1206 qui étouffe les associations et qui est en train presque de vouloir tuer les associations les unes après les autres, au moins en ne leur reconnaissant pas l'existence légale. Et pourtant, elles ont une existence sur le terrain et elles sont reconnues tant par la population que par à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre pays. Donc il y a une véritable répression. de l'ensemble des mouvements qui existent, que ce soit des mouvements organisés ou des mouvements de masse qui dans la rue, etc. Et on l'a vu, effectivement, les lois sont de plus en plus, comme vous le dites, le terme là, liberticide. Voilà, etc. Mais les lois, certaines choses qui ont été obtenues et reconnues par qui ont été reconnues par les autorités, elles sont là et elles existent et il faut qu'on s'en saisisse et il faut qu'en permanence on les utilise. Et je dirais qu'il y a des malheureusement, certaines organisations, certains partis politiques qui ne le font pas suffisamment, qui pensent que ce sont des acquis, khlas, ad vitam aeternam, il al-abd, tahassanna alayhum wa rahom rayhin yqadou.
S'il n'y a pas une mobilisation, une lutte, donc ces acquis, ils peuvent disparaître avec le temps.
Absolument, ils disparaissent. Comme le fait qu'ils soient, depuis des années, en particulier ces 15-20 dernières années, comme par hasard, depuis la sortie des années de braise algérienne, et en particulier l'arrivée de ce chef de M. Bouteflika comme chef d'État, les libertés sont régulièrement bafouées, merci, et on refuse aux associations, on refuse aux mouvements, aux différents mouvements la possibilité d'exister, on refuse aux citoyens de manifester, et c'est de plus en plus. Mais c'est aussi notre responsabilité, tous les uns les autres, y compris ceux qui sont nés de octobre 88, je parle de partis politiques, je parle de la presse privée, qui doivent régulièrement défendre leur propre existence et l'existence de ces libertés. Sinon, demain, aujourd'hui, ça commence par des restrictions sur Raj et l'enfermement de Raj. Demain, ça touchera des partis politiques. Après-demain, personne n'est à l'abri.
S'il n'y a pas une solidarité,
personne, s'il n'y a pas une véritable lutte permanente, encore une
organisée.
Fois. Absolument, et collective, comme vous essayez dans le mouvement associatif, encore une fois, de le faire, on arrivera effectivement à revenir à l'avant octobre 88, et on aura d'une certaine manière tout perdu, y compris certaines vies humaines. Donc les libertés ne sont pas à défendre, et vous le savez encore très bien, qu'en octobre.
C'est un travail quotidien, permanent,
et je dirais que, excusez-moi un peu de la longueur de cette réponse ou des réponses, mais je dirais qu'également c'est je pense qu'à chaque fois qu'il y a une atteinte à une liberté pour un citoyen, pour une association, pour un syndicat, pour un mouvement de citoyens, pour un parti politique, pour un journal, pour un radio, pour une radio, etc. Il faut que l'ensemble dénonce, au moins dénonce ces choses-là. Voilà. On ne peut pas rester silencieux vu la situation grave dans laquelle nous sommes arrivés. Aujourd'hui, il faut savoir, il faut réagir, parler, dénoncer. Au moins ça, chaque atteinte, et faire connaître en Algérie et à l'étranger, comme vous venez de le faire avec d'autres collectifs d'associations les jours précédents, dénoncer et alerter l'opinion nationale et internationale, quoi que peuvent nous dire les tenants du pouvoir, de la situation grave dans laquelle nous sommes en train de rentrer avec les répressions multiples qu'il y a ces dernières années.
Justement, ça veut dire, revenons à la situation 30 ans, toujours 30 ans après, on constate, il y a des gens qui disent, voilà, on est revenu à la période avant octobre 88. On est dans une situation vraiment très, très délicate. Les institutions, rien, une rupture entre des institutions, la lutte au sein du Sérail, on parle du cinquième mandat, du troisième, du quatrième, les partis politiques qui sont un peu... Ça veut dire que, selon vous, est-ce que... les ingrédients d'une explosion sociale sont là. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité que s'il n'y a pas des mesures concrètes, il peut y avoir une autre explosion sociale.
On n'est pas revenu à avant 88. J'expliquais ça, enfin, je donnais mon avis sur ça justement dans la question la réponse précédente. Avant octobre 88, on bougeait, on était emmené en prison et on pouvait disparaître à jamais. Voilà, ce qui est arrivé à des gens. Aujourd'hui, certes, on peut être embarqué, certes, on peut être tabassé, certes, on peut être mis en prison, mais c'est pas systématique. La preuve, on est aujourd'hui ici dans les locaux du RAJ en train d'enregistrer une émission où les autorités, quand même, en prennent pour leur grade. Hein, et les décideurs en prennent pour leur grade. Donc...
Ça veut dire que la situation actuelle, on constate qu'il y a sans issue. Ça veut dire un flou. Aujourd'hui, la société, 30 ans après, les Algériens, même nous, tant qu'association, on est dans une situation de statu quo. Il n'y a pas un horizon clair sur le plan démocratique. Les institutions, on est face à nous, des institutions qui sont handicapées. Ils ne peuvent pas avancer. L'Assemblée nationale ne peut pas avancer. L'exécutif se contredit. Et il n'a pas de stratégie, de vision. On parle du cinquième mandat, des démissions des gens, la corruption. Donc, cette situation, est-ce qu'elle n'est pas vraiment alarmante? Et s'il n'y a pas des mesures concrètes, et ça peut se...
À tous les points de vue, les voyants sont au rouge. Nam. À tous les points de vue, la situation, les voyants sont en train de s'allumer.
Ça
clignote au rouge, même si j'adore la couleur rouge par ailleurs, mais sont au rouge et sont en train de dire danger, 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 danger. Oui, je ne vais pas redire ce que vous avez dit, mais à tous les niveaux, voilà, social, politique, institutionnel, économique même d'une certaine manière, les libertés, etc. Après, et puis, nous sommes avec un régime qui travaille d'abord à un pouvoir qui travaille à extrêmement courte vue. Courte vue, ça veut dire, il ne sait même pas ce qu'on va devenir.
Il n'y a pas de planification,
il gère des crises. Comme par hasard, il n'y a pas de ministère de planification comme il pouvait y avoir auparavant. Donc, il n'y a pas de volonté de planifier sur le moyen ou le long, encore moins sur le long terme. C'est pratiquement jour après jour. Voilà. Et il est dans le vabab, il est dans le brouillard, et ce brouillard l'arrange. Et ce brouillard l'arrange, il est dans le brouillard. En tout cas, il nous laisse, nous. La classe politique, les militants, les citoyens, dans le brouillard, et ceci l'arrange. Ensuite, est-ce que nous sommes à la veille? Bien évidemment que moins la population, à travers ses différentes représentations politiques, associatives, syndicales, moins il y aura possibilité, ce qui est de plus en plus le cas, de s'exprimer pacifiquement, de porter pacifiquement, tel que le mouvement associatif et autres politiques essayent de le faire, moins il y aura d'espace de liberté, plus on arrivera ou on s'y dirigera vers, malheureusement, l'expression violente de revendication. Donc, alors moi, je ne vais pas demander des autorités ou je ne vais pas demander du pouvoir parce qu'il a prouvé depuis des années qu'il ne s'était absolument pas son orientation. Je ne vais pas ni lui demander ni attendre du pouvoir qu'il ouvre et qu'on puisse continuer à s'organiser comme ça a été fait auparavant, avec le respect des libertés, etc. etc. C'est sa volonté de fermer. Il faut que nous puissions trouver des moyens adéquats pour faire en sorte que l'explosion je ne sais pas si elle pourra être évitée, mais en tout cas qu'elle soit le plus organisée et le
pour
mieux
la faire aboutir
pour la, le plus qu'elle soit organisée le plus possible effectivement dans le but de la faire aboutir. Donc c'est comme un fruit. Hein, souvent, les gens donnent, et je le disais tout à l'heure, l'exemple de la cocotte minute qui est fermée de tous les côtés, qui ne peut pas, donc finit par exploser. Bah, c'est comme un fruit dans un arbre qui reste, qui n'est pas cueilli, et puis qu'au bout d'un moment, finit par tomber. Voilà. Nous sommes dans une situation à tous les points de vue mauvaise, Et pourtant, nous essayons de positiver, surtout les militants, mais et ben, si la situation reste comme ça, effectivement, ça risque
d'avoir une
violente, une nouvelle, comme vous l'avez appelé, une nouvelle explosion sociale exprimée de manière violente. Et c'est en cela que, désolé d'avoir ajouté ça, enfin d'avoir, désolé, mais... c'est en cela que, comment dire, que ça peut être différent et plus dangereux qu'en octobre 88.
Parce que là, c'est un autre contexte.
C'est voilà. Plus un contexte. C'est que il y a les 20 ans presque de Bouteflika et de sa politique. Et de sa politique, a fait qu'il y a, vous avez parlé de corruption, le discrédit du politique, etc., a fait que, d'une certaine manière aussi, c'est aussi une responsabilité que nous partageons, nous militants dans les différentes organisations, mais que la population croit de moins en moins, pour ne pas dire croit très peu, à, aux luttes politiques, à travers des organisations, etc. Donc demain, s'il y a des gens qui sortent dans la rue, qui est-ce qui va encadrer ces choses-là? Qui est-ce qui va encadrer ces choses-là? Il n'y aura pas, ou il y aura extrêmement peu, en tout cas dans la plupart des régions d'Algérie, de personnes, de militants, qui pourront dire il faut organiser une manifestation, il faut porter des... Ça sera presque... Ça risque d'être presque du Hajjouj et Majjouj, quoi, hein, dans tous les sens. Et ça veut dire quoi? Ce ne sera porte ouverte à la répression. Et porte ouverte encore une fois à la fermeture, parce que comme nous l'avons vécu, y compris il n'y a pas si longtemps dans ce pays, l'état d'urgence au nom d'une sacro-sainte sécurité.
Stabilité.
Et une sacro-sainte sécurité et stabilité. Donc la situation dans le cas d'explosion, je parle généralisée et nationale, parce que vous le savez très bien, il y a régulièrement des mouvements de protestation qui ont lieu régulièrement au quotidien dans les différentes régions d'Algérie. Mais le jour, dans les stades, par exemple, l'expression, etc., par les jeunes dans les stades, le problème, c'est risque d'être le moment où tout ça va converger et va faire une explosion généralisée. Donc il est de notre devoir, il est de devoir des partis politiques, on ne le répétera jamais assez, il est de devoir des associations, des syndicats, de militants chacun dans son coin, de trouver les moyens, de trouver les termes qu'il faut pour que la population continue à revendiquer, mais de manière organisée et le plus pacifique possible. Et j'en profite pour dire que peut-être que nous devrions également, même si la situation n'est pas la même, regardez en ce qui nous concerne, nous, au nord de l'Algérie, regardez plus vers le sud et regardez comment les militants là-bas, les citoyens plus exactement, c'est même pas spécialement des militants au départ, les citoyens organisent les mouvements de revendication, les mouvements de protestation sur des revendications sociales essentiellement. Je peux parler, on peut citer le Harakat al-Raz Sakhri Fi'ain Salah, où vous avez été d'ailleurs, vous en tant que Raj, les jeunes... les jeunes à la recherche d'emploi à Ras Sakhri, je le dis en français, donc c'était contre le gaz de schiste, les jeunes à la recherche d'emploi à Ouergla et à Lrouat et à dans d'autres lieux. En ce moment même, tout ce qui est en train de se passer à Ouergla, en jonction avec d'autres villes du sud et de manière très pacifique et très très bien organisée sur des revendications sociales, de mettre en place des hôpitaux,
l'amélioration des conditions de vie
au quotidien. Donc il n'y a pas que le nord de l'Algérie qui existe ou qui bouge, loin de là. Il y a les gens de l'ensemble de ce pays, y compris ceux qui sont dans le sud et qui sont souvent le plus délaissés et qui en ce moment nous donnent des leçons, ou en tout cas il a un grand intérêt à d'abord regarder vers eux et être solidaire de leurs justes revendications et aussi de s'imprégner de la manière dont ils sont en train de s'organiser et de mener ces revendications.
comme vous venez de dire, la matière est là, donc il suffit juste de trouver comment capitaliser, créer des synergies entre ces dynamiques qui sont un peu dispersées au niveau national. Je termine avec une dernière question, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Vous, tant que l'un des fondateurs de l'association RAJ, on veut bien avoir, ça veut dire, il a été créé juste après le siège, après le mouvement d'octobre 88. Et RAJ, il est attaché à l'esprit d'octobre. Donc, comment vous avez articulé ça à la... lors de la création du RAJ en 93? Quelle était la place de l'esprit d'octobre 88 à l'époque, ou l'esprit chez vous en tant que membre fondateur du RAJ et dans la vision et la stratégie de l'association?
Ça ramène à Chahel en arrière, 26-27 ans en arrière, merci Waheb. C'était fondamental. Fondamental. C'était, je dirais, presque la première, le premier point nodal de l'existence de RAJ. D'abord, je rappelle que RAJ a été agréé en mars 93, mais que les enragés ont commencé à se rencontrer, à se regrouper, à réfléchir, à échanger, à parcourir le pays pour égrener leur idée de RAJ depuis 1992, au minimum.
Une année avant.
Une année avant, au minimum. Donc, pour nous, et nous n'étions pas spécialement des militants professionnels, etc. On venait de différents horizons, jeunes filles et garçons, étudiants, salariés, chômeurs, rêvant d'un avenir meilleur et voulant se le construire. Il y a une chose, c'est qu'on est abouti au fait que, premièrement, si on pouvait prétendre à l'époque à avoir légalement une association comme celle que vous présidez aujourd'hui, comme celle que tu présides aujourd'hui, c'est parce que des gens se sont battus. Voilà. Et qu'il était fondamental que ce soit en 88, et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour tous les mouvements qui ont précédé octobre 88, qu'il était fondamental de toujours faire reconnaître et parler et rendre hommage à ces gens-là qui nous avaient permis à ce moment-là de créer cette association et qui permettent aujourd'hui qu'on existe avec des radios, avec des journaux, etc. et qu'on puisse continuer la lutte. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, et non moins fondamentale, c'est que revendiquer octobre, et c'est bien de terminer peut-être avec ça, revendiquer les acquis d'octobre 88, c'est pas, je dirais avec des guillemets, juste pour parler de 88. C'est pour dire nous sommes encore là à défendre ces acquis-là et nous tenons à ces acquis-là avec lesquels nous voulons construire ce pays et notre avenir. Voilà. Donc les acquis qui ont été obtenus, les acquis démocratiques, et toutes les possibilités que cela offrait et que cela continue d'offrir malgré toutes les fermetures, c'est de s'orienter vers l'avenir. Premier point, je vous ai dit, rendre hommage à ceux qui nous ont permis d'exister légalement, mais aussi de dire nous sommes encore là et nous resterons là et nous continuerons à nous battre et à revendiquer et à faire attention aux différents acquis. Ça veut dire les libertés, les acquis démocratiques, les libertés qui permettront de construire un meilleur avenir dans ce pays, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est indissociable. Ce n'est pas juste vous augmenter les salaires. S'il n'y a pas la possibilité qu'un citoyen soit libre, ça ne sert pas énormément à grand-chose. Voilà, donc ça a été l'essentiel, presque, je dirais, l'âme de la création de cette association à son départ, son âme philosophique, et qu'on a essayé de traduire sur le terrain par la suite, et que vous continuez, avec toutes les difficultés que cela comporte, d'essayer de, je suppose, et je pense, et je trouve, de véhiculer encore aujourd'hui. Donc, c'est pas qu'une histoire de rendre hommage à ceux qui se... C'est pas qu'une histoire aussi importante soit-elle que de rendre hommage à ceux qui se sont battus. C'est pour dire... الى حبيتو مستقبل الى حبيتو حاضر ومستقبل meilleur il faut continuer à nous battre pour ses acquis pour ses libertés et parce que la liberté est à mon sens la première des dignités. Voilà, c'est le tout n'est pas de mettre un t-shirt du Che Guevara ou de mettre une pancarte liberté dans sa chambre ou de mettre du matin au soir sur les réseaux sociaux et de rendre hommage à Maato Blounès, hein, si on ne fait pas ce que faisait Maato Blounès, si on ne fait pas ce que prônaient d'une certaine manière les Che Guevara. Voilà, je donne cet exemple parce que c'est les plus connus.
Il faut passer de la théorie à l'action.
Il ne faut pas passer son temps à juste reconnaître en Maato Blounès la personne qui a lutté. Il faut se saisir de la lutte et utiliser la lutte de Maato Blounès. Il en est mort. Il faut que nous, on s'en saisisse et continuer à le faire. Ce n'est pas juste mettre liker ou mettre des t-shirts et aller commémorer le jour de son assassinat et le jour de son assassinat, en l'occurrence, le 25 juin. Voilà. Donc, rendre hommage, le meilleur des hommages, je dirais pour finir, le meilleur des hommages à rendre à ceux qui se sont battus, c'est que ce soit en 54 jusqu'en 62, de 62 jusqu'à 2018, ça veut dire jusqu'à 2018, le meilleur hommage qu'on puisse porter, c'est de continuer à porter le flambeau et à porter la lutte, quoi qu'il nous en coûte, pour laquelle se sont sacrifiés d'autres et avec lesquels demain, sûrement, demain peut-être, après-demain sûrement, le soleil brillera sur ce pays.
Merci Hakim, avec cet appel optimiste qui donne de l'espoir, qui interpelle aussi la société d'une manière générale, soit parti politique, société civile et associations, notamment les jeunes. Donc il faut continuer le combat. Et même l'esprit du octobre nous rage 25 ans après son existence. Il continue à porter cet esprit, ces valeurs, l'idéal d'octobre. Et j'espère qu'il va rester jusqu'à l'aboutissement. Des revendications de des enfants d'octobre 88.
Vous faites en tout cas ce qu'il y a lieu de faire pour que cela finisse par arriver. Donc je dirais créant 1, 2, 3, 4, 10 octobre 88.
Merci Hakim.
Yate Kom Saha en tout cas. Et bon courage à votre continuité et votre association.
Merci beaucoup. Auditeurs et auditrices, on est arrivé à la fin de cet entretien, débat échange important qu'il y a eu autour d'octobre, la situation actuelle de l'Algérie sur tous les plans. Effectivement, il faut continuer le combat. Le plus grand hommage qu'on peut rendre à nos martyrs, soit de 88, bien avant, même durant la guerre de libération nationale, c'est de continuer le combat, un combat quotidien sans relâche. On vous donne rendez-vous avec un autre entretien. Au revoir.